Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Que se passe-t-il dans ces noces? Que fait Marie et que fait Jésus? Pourquoi Marie fait remarquer qu'ils n'ont pas de vin? Peut-être pour qu'on aille en acheter. L'Évangile nous précise que c'est le premier signe que Jésus accomplit. Il n'y a donc aucune raison que Marie demande un miracle à son fils. Visiblement, Joseph n'est déjà plus là, sans doute est-il mort. Et donc, c'est Jésus qui est devenu le chef de famille. Dans sa réponse, Jésus décale les choses. Un certain nombre de traducteurs proposent d'entendre la réponse de Jésus avec un point d'interrogation, comme je l'ai suggéré dans la lecture. Non pas un refus, mon heure n'est pas venue, mais une question : est-ce que mon heure n'est pas venue ? Ce qui peut expliquer la réponse de Marie, qui ne fait pas pression sur Jésus, mais qui, au contraire, comprenant qu'il va se passer quelque chose, pose un acte de foi. Et d'ailleurs, le texte grec suggère plutôt de traduire « S'il vous dit quelque chose, faites-le ». Tout ce que éventuellement il vous dira, faites-le. Au fond, le consentement que Marie a donné à Dieu dans l'Annonciation, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », elle invite les serviteurs à faire de même, à faire la parole que Dieu leur adresse par Jésus. Comme si Marie faisait entrer dans son acte de foi les serviteurs qui sont là. Elle ne sait pas ce que va faire Jésus, mais elle se rend disponible et elle invite les serviteurs à se rendre disponibles à ce qu'il va faire. Et Jésus va donner en surabondance le vin des noces qui manque. Le maître du repas, qui ne sait rien de l'affaire, va trouver le marié, que nous ne connaissons pas, ce qui suggère que c'est l'époux à qui revient, dans ce contexte, de fournir le vin. Ainsi, au fond, Jésus se présente, lui, pour ceux qui assistent à la scène, comme nous, il se présente, lui, comme le véritable époux. Et nous comprenons mieux, du coup, l'appellation qu'il utilise pour sa mère, femme. Il place Marie en modèle des disciples, en modèle de l'Église. Et ce qui se joue dans les noces de Cana, c'est l'inauguration de l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus a renoncé à changer les pierres en pain parce qu'il n'est pas venu pour se donner la vie. Il a renoncé à changer les pierres en pain pour pouvoir changer le pain en son corps et le vin en son sang, c'est-à-dire pour pouvoir livrer sa vie en s'en remettant totalement à la bonté paternelle de son Père. Et il commence à donner un signe en changeant l'eau en vin pour les noces, ces noces de l'agneau que nous célébrons en chaque Eucharistie. Nous sommes donc entraînés à entrer dans cette alliance nouvelle et éternelle. Et dans cette alliance nouvelle et éternelle, c'est l'Église qui est l'épouse. L'Église, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pauvres pécheurs qui se laissent rassembler par le Christ Jésus et qui se laissent transformer par lui. Il rassemble les enfants de Dieu dispersés, comme le dira Caïphe, sans comprendre la portée de ce qu'il dit, après la résurrection de Lazare. Jésus vient rassembler les enfants de Dieu dispersés, il en fait son corps, il les rassemble dans l'unité, il les sanctifie par le don de son Esprit Saint, il leur révèle la totalité du mystère de Dieu et il confie cette Église à la bienveillance des apôtres. Je viens juste d'énoncer que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, une de l'unité que le Christ effectue en nous rassemblant dans la charité, la sainteté qu'il donne à l'Église et qu'elle nous donne par les sacrements, la catholicité qui est le rassemblement de tous les enfants de Dieu dispersés dans la diversité de leur richesse propre, et l'apostolicité qui est que la foi est garantie par les apôtres dont les évêques sont les successeurs aujourd'hui. Nous sommes donc comme entraînés à entrer dans cette alliance du Christ et de l'Église qui inaugure l'alliance de Dieu avec toute l'humanité et même, faut-il élargir, avec toute la création. Dans cette alliance que nous annonçait déjà la première lecture dans le livre d'Isaïe, dans cette alliance, il y a une diversité des dons de l'Esprit Saint, une diversité de charisme. Ce n'est pas nous qui faisons l'Église. Jésus le dit explicitement à Pierre.
Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas nous qui faisons l'Église, c'est nous qui nous rendons disponibles pour que, par nous, avec nous et en nous, le Christ bâtisse son Église. Et il nous faut donc accueillir les autres, tous les autres baptisés, et tous ceux que le Seigneur veut faire entrer dans son Église. Et nous ne savons pas qui. Et donc c'est à tout homme et à toute femme de notre temps que nous avons à annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous avons à accueillir chacun, non seulement comme un don de Dieu parce qu'il est une personne humaine et que cela suffit pour y voir un don de Dieu, mais qu'en plus, par le don de l'Esprit Saint à travers le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, don de l'Esprit Saint qui est renouvelé dans tous les sacrements, le Christ enrichit chacun de nous de charisme particulier. Aucun de vous, frères et sœurs, aucun de vous n'a reçu aucun charisme. Tous, qui que vous soyez, quels que soient vos péchés, quelle que soit votre histoire, si vous êtes baptisés, confirmés, vous avez reçu des dons de l'Esprit Saint pour le bien de l'Église, pour le bien de la société dans laquelle nous vivons. Et nous avons donc tous à nous accueillir comme des dons de Dieu, des dons que Dieu fait à l'Église et au monde pour l'enrichir. Nous avons tous quelque chose à apporter, non seulement à la communauté de l'Église et en particulier à notre paroisse, mais nous avons tous quelque chose à apporter au monde dans lequel nous vivons de la part de Dieu. Ces charismes sont variés. Nous n'avons ni à les jalouser, ni à les contester, mais nous avons à les accueillir. Et nous avons besoin les uns des autres pour comprendre quels sont les dons que Dieu nous a faits en vue du bien commun. La démarche synodale que le Saint-Père a engagée le 9 octobre à Rome, qui va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre 2023. Cette démarche synodale, le pape souhaite que le plus grand nombre de baptisés, qu'ils viennent à la messe ou qu'ils n'y viennent pas, puissent participer à cette démarche pour que nous puissions faire grandir l'Église et la rendre davantage missionnaire. Ne nous dérobons pas à cette tâche, mais au contraire, certains que nous avons reçu de Dieu des charismes pour le bien de tous, osons les apporter à la communauté de l'Église et ensemble que nous les apportions au monde. C'est ainsi que nous rendrons hommage à la réalité de cette alliance nouvelle et éternelle dans laquelle nous sommes engagés, à laquelle nous avons été appelés et que nous célébrons en chaque Eucharistie. Amen.